9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Et maintenant, quelle issue, quelle réponse après ce nouveau samedi de violence où les casseurs ont pris le pouvoir dans plusieurs quartiers de Paris? L'Arc de Triomphe pris d'assaut, 412 personnes interpellées. Le chiffre vient d'être revu à la hausse. Le conflit des gilets jaunes y est retourné à la crise politique majeure. Avec nous dans un instant, trois invités. Le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut qui a exprimé ces derniers jours sa sympathie au mouvement. On verra ce qu'il en est ce matin. Le patron des députés marcheurs à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, au moment où des élus de son groupe demandent un moratoire sur les hausses de carburant. Et puis Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, alors que s'ouvre en Pologne une nouvelle conférence mondiale sur le climat, la COP24, l'ex-président de la COP21, celle des accords de Paris, nous a accordé un entretien avant de s'envoler pour Katowice. Faut-il forcément, selon lui, rendre l'essence plus chère?
Si on veut aller vers un monde décarboné, le moyen le plus efficace, disent tous les spécialistes, c'est la tarification du carbone. Mais je mets en avant cette nécessité de pratiquer une transition juste.
Une transition juste, dit Laurent Fabius, invité de C'est arrivé demain vers 9h30. Enfin, l'un des plus beaux films de cette fin d'année s'appelle Pupille. Il raconte avec une simplicité bouleversante le parcours d'adoption d'un bébé depuis sa naissance sous X jusqu'à son accueil par sa mère adoptive. Jeanne Herry, la réalisatrice, et Élodie Boucher, sa tête d'affiche, seront avec nous en fin d'émission.
Europe 1.
Bonjour Alain Finkielkraut.
Bonjour.
Que s'est-il passé hier à Paris? Qu'avez-vous vu dans cette vague de violence d'une ampleur rarement vue, voire jamais vue, en plein cœur de la capitale?
On parle d'insurrection, mais c'est un beaucoup trop beau mot pour qualifier ce déchaînement de barbarie. Les manifestants qui ont arraché des arbres, incendié des voitures et des immeubles, attaquer des pompiers, chercher à pogromiser des policiers, sont des vandales et des tueurs en puissance. Et l'intelligence défaille devant cette explosion de violence nihiliste. Comment est-ce possible? Simplement, je dirais, le temps n'est pas à comprendre, il est à combattre ce phénomène qui se produit maintenant dans tout les manifestations. Donc, si l'on veut préserver ce mode d'expression collective, il faut en finir avec ce qu'on appelle les casseurs. Le gouvernement doit s'y employer, tous les partis républicains avec lui, et je regrette à cet égard les toutes récentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qui s'en est pris une fois encore au gouvernement, qui a salué l'insurrection. J'espère que la France insoumise finira par le payer dans les yeux.
Il n'a pas tout à fait salué l'insurrection. Il a dit que le gouvernement était responsable de la situation et des violences. Je relève, Alain Finkielkraut, que vous avez parlé des manifestants sans distinguer les casseurs et les gilets jaunes. Vous pensez qu'on ne peut plus les distinguer après ce qui s'est passé hier?
Je dis les manifestants. Qui ont fait cela? Même le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État, Laurent Nunez, ont fait la distinction. Beaucoup des barbares, si vous voulez, s'étaient revêtus de gilets jaunes pour détruire ce qu'ils pouvaient. Ils ont, et dans la liste, je l'ai oublié, ils ont aussi profané l'Arc de Triomphe. Ils avaient des masques à gaz, ils avaient des pieds de biche. Ce n'étaient évidemment pas des gilets jaunes. Reste que ceux-ci, maintenant, ont une responsabilité, c'est-à-dire ils doivent solennellement condamner ces agissements, ils doivent dire qu'ils n'appelleront plus à une manifestation à Paris, parce qu'il y va de la crédibilité de leur mouvement. Moi, vous l'avez souligné, j'ai de la sympathie pour les Gilets jaunes, parce que, en effet, ils ont été les laissés pour compte de la nouvelle économie, et aussi parce que la compassion et le sens de la justice d'une grande partie de l'opinion, de la classe intellectuelle, de la classe médiatique et de la classe politique était occupée ailleurs. On n'en avait que pour les banlieues et pour les migrants. Alors que la situation de la France périphérique ou de ceux que David Goudert appelle les somewhere, ceux de quelque part, était de plus en plus précaire. Si vous voulez, ils ont été victimes d'une série de politiques désastreuses. La première, je crois, les 35 heures, puisqu'elle a été financée par la modération de la pression salariale. La deuxième, c'est un exemple parmi d'autres, c'est la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires par François Hollande. Donc tout cela, ils l'ont vécu, et d'autres choses encore, ils l'expriment, ils se rendent visibles, et je comprends très bien leur mouvement d'exaspération.
Mais je retiens que vous nous dites que pour arrêter les violences à Paris, il faut arrêter
les manifestations à Paris,
dans la capitale. Alain Finkielkraut, vous restez avec nous, on vous retrouve dans 1 minute 30 pour parler de politique et de sortie de crise.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les trajets jusqu'au bureau de Thomas qui changent, avec la trottinette électrique à 129€ au lieu de 179. 129€. Allez Thomas, profite des bouchons, de ce métro qui vient de se fermer devant toi. Profite, parce que bientôt c'est Noël et tout ça, ce sera fini.
Jusqu'à ce soir, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent la trottinette électrique à 129€ au lieu de 179. Et vos trajets changent.
Auchan.
Trottinette électrique i11 Zero Border, dont éco-participation 2,08€. Magasin ouvert aujourd'hui sur Auchan.fr.
Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019.
Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine, rendez-vous chez Peugeot.
En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur Peugeot.fr.
Leclerc. Maman, qu'est-ce que tu fais avec mon jambon ?
Je regarde. Jambon cuit supérieur sans coin, tradilège de marque Repère, porc français, né, élevé et transformé en Bretagne.
Et avec 50% de ticket Leclerc.
Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 27 novembre au 8 décembre, le paquet de 6 tranches de jambon supérieur tradilège de marque Repère de 270 grammes origine France est à 2,92€, soit 10,81€ le kilo. Avec en plus 50% en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Un régal.
Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1.
Le dimanche, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Et avec le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut, comment Alain Finkielkraut résoudre le paradoxe d'un mouvement très minoritaire sur le terrain, 75 000 manifestants dans toute la France, c'est ce qui a été annoncé hier par le ministère, qui mobilise de moins en moins chaque semaine, mais qui demeure très populaire, très soutenu par l'opinion, du moins jusqu'à présent, jusqu'à cette explosion de violence hier en plein Paris et qui provoque une crise politique. Quelle devrait être, selon vous, la réponse du pouvoir ?
C'est très difficile pour moi de répondre, si vous voulez. Alors, les Gilets jaunes sont aujourd'hui galvanisés, d'abord par leur présence médiatique. Ils sont passés brusquement de l'invisibilité à la visibilité totale, galvanisés aussi par les sondages. Parce que 80% d'opinions favorables, ils se disent « nous sommes le peuple ». Comme si le peuple, c'était un bloc compact et unanime. Et on le voit d'ailleurs, ça va être une difficulté pour le gouvernement. Non seulement ils ne sont pas le peuple, ce qui ne veut rien dire, le peuple ne parle pas d'une seule voix, mais ils sont très divisés entre eux. Donc la pluralité existe au sein du mouvement. Et la difficulté, en effet, est celle de trouver des interlocuteurs. Je crois simplement que le gouvernement devrait, avant de dialoguer, me semble-t-il, prendre des mesures fortes. Moi, j'étais plutôt favorable à l'abandon de cet axe, peut-être est-il trop tard, parce que je ne crois pas que le salut écologique de la France en passe aujourd'hui par la taxe carburant. Il y a d'autres urgences, d'autres taxes sur le carburant, il y a d'autres urgences, d'autres priorités. Peut-être est-il trop tard, mais il me semble qu'un geste doit être fait avant tout dialogue qui puisse, si vous voulez, combler ou du moins satisfaire ceux des gilets jaunes qui sont modérés et qui n'ont pas la tête enflée par leur succès médiatique et les sondages favorables.
Un signal pour montrer que le pouvoir les entend. Le problème, c'est que ça pouvait sans doute marcher il y a quelques jours ou une semaine, mais évidemment, plus la crise dure et plus le signal devrait être fort et puissant.
Oui, mais d'un autre côté, les gilets jaunes sentent bien que leur crédibilité est en jeu, qu'ils doivent commencer d'être raisonnable, et certains d'entre eux le sont. Moi, je me souviens de l'émission chez Pujadas, il y avait
sur LCI,
il y avait un gilet jaune terrible avec la casquette à l'envers Ce qui prouve qu'en France, quand l'assimilation ne se fait pas dans un sens, hélas, elle se fait dans l'autre, qui avait une attitude extrêmement brutale, arrogante, avec la secrétaire d'État à la transition
énergétique,
Emmanuel Vargon, que j'ai trouvé d'ailleurs à ce moment-là tout à fait remarquable. Et il l'a renvoyé dans les cordes, il voulait entendre parler de rien. Et en revanche, à côté de lui, il y avait une jeune femme, aide-soignante, qui disait sa situation extrêmement difficile, 1 200 € par mois, 2 enfants, etc. Et voilà, donc il faudrait que ceux des gilets jaunes qui expriment avec une grande dignité leur détresse prennent, si vous voulez, davantage sur les autres et qu'ainsi un dialogue puisse s'amorcer.
Vous avez dit tout à l'heure, Alain Finkielkraut, qu'il ne fallait pas parler d'insurrection, et c'est vrai qu'insurrection, étymologiquement, c'est la volonté de prendre le pouvoir, ce qui n'était pas forcément le cas des manifestants hier dans Paris. Tout de même, au vu des images, beaucoup de Français, beaucoup de ceux qui nous écoutent se posent la question ce matin, est-ce que le pays peut basculer? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose de politiquement inconnu?
Je ne crois pas, parce que vous l'avez noté, Patrick Cohen, c'est très minoritaire. En 68, quand il y avait des barricades, bien moins violentes que celles-ci, de très très nombreux étudiants étaient dans la rue. Des dizaines, voire des centaines de milliers.
Oui.
Là, c'était 3000 à 5000 personnes. Il faut aussi savoir que les policiers sont paralysés. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, d'abord, ils surveillent les manifestants, mais ils sont eux-mêmes sous la surveillance des caméras. Ils ne peuvent pas faire un geste qui ne soit filmé. Et ils ont le syndrome Malik Houssekine. Donc, on leur demande de charger le moins possible. Les manifestants les chargent beaucoup plus souvent et beaucoup plus tranquillement qu'eux. Donc, si vous voulez, ce qui permet à ces barbares, il faut les appeler par leur nom, ce sont des barbares et non des insurgés, de faire un peu ce qu'ils veulent. Mais de là à penser que le pays peut basculer, je ne le crois pas.
Merci Alain Finkielkraut d'être venu ce matin sur Europe 1. Dans un instant, on poursuit sur le même sujet avec le chef des députés de la majorité, Gilles Legendre. La ligne de fermeté est-elle encore tenable ?
Europe 1. La suite de cette arrivée demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour Patrick Cohen.
Président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Question d'abord aux députés de Paris, ville abîmée par les violences. Il n'y avait rien de mieux à faire hier sur le plan du maintien de l'ordre pour éviter la casse, le pillage et la souillure de l'Arc de Triomphe.
Je rends hommage aux forces de l'ordre qui ont fait face à une situation totalement inédite et qui ont fait en sorte qu'aucun blessé et aucune victime ne soit à décompter.
Donc on ne pouvait pas faire mieux.
Non,
le maintien de l'ordre n'a pas été un échec hier.
Non, c'est pas un échec. Ce qui est un échec, c'est l'échec politique et démocratique de cette manifestation. C'est un défi démocratique, plus qu'une crise sociale. Les manifestants sont dispersés dans des endroits totalement inattendus de la capitale. Vous ne pouvez pas installer des policiers et des gendarmes dans toutes les rues de la ville.
Donc si ça n'est pas un échec, ça veut dire que samedi prochain, ça recommence.
Écoutez, je crois que le gouvernement a été très clair hier. Nous devons maintenir l'ordre par tous les moyens, absolument tous les moyens, de droit. Ça va de soi.
Ça veut dire que tous les moyens n'ont pas été jusqu'ici employés.
Et la palette existe qui permettra de le faire. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été très clair sur ce point hier.
Oui, mais enfin, ce n'est pas un couvre-feu qui pourrait permettre d'empêcher des gens de circuler, de se rassembler comme on l'a vu
Alors,
hier.
Alors, parallèlement, nous devons poursuivre la voie qui a été tracée, c'est-à-dire engager un dialogue puissant, ardent, avec ceux des Gilets jaunes qui sont ultra majoritaires dans ce mouvement et qui veulent discuter.
Bon, mais il faudrait qu'il se passe quelque chose d'ici samedi prochain, c'est-à-dire, on vient d'en parler avec Alain Finkielkraut, un signal qui puisse être entendu par les manifestants. Quel pourrait être ce signal ?
Le signal, c'est la promesse que la concertation et que la négociation que nous proposons aux Gilets jaunes, mais pas seulement à eux, à tous les Français, cette fameuse concertation sur les territoires s'enclenche, se met en place de manière très concrète.
Ce qu'a proposé Macron mardi dernier dans son discours et qui a été totalement inopérant.
Non, il n'a pas été totalement inopérant. Les choses sont en train de se mettre en place. Si les Gilets jaunes ne veulent pas y monter tout de suite, nous le ferons avec d'autres. La concertation que nous proposons, c'est à tous les Français. Elle est inédite. Elle va se passer au niveau des territoires et pour une raison très simple, c'est au niveau des territoires que se posent aujourd'hui les vrais enjeux et que peut-être le déficit a été le plus important en matière de discussion et de négociation avec les Français. Patrick Cohen, l'enjeu, il est très clair. La crise aujourd'hui, ça n'est pas la crise du prix du carburant. C'est la conséquence de 30 ans d'inaction publique qui a entraîné le pays dans un long mais sûr déclassement et dans le déclassement de ses populations les plus fragiles. Aujourd'hui, cela s'exprime de manière éruptive par la passion. À la passion, nous devons répondre par des solutions. Les solutions, c'est exactement ce que nous faisons depuis 18 mois. Pour dédoubler les classes maternelles, pour apporter de l'aide aux mères célibataires, pour mettre fin aux déserts médicaux, pour résoudre les questions de problèmes de proximité, pour résoudre les problèmes de logement.
Mais aussi pour diminuer le pouvoir d'achat de certains retraités, c'est ce qu'on entend sur les barrages.
Il n'y a que les retraités les plus aisés dont le pouvoir d'achat augmente, baisse, toutes les autres populations...
Pas très aisés.
Si, attendez Patrick Cohen, la raison, c'est aussi de dire la vérité. Je prends un exemple. Les gilets jaunes disent qu'il faut augmenter massivement le SMIC. Ça tombe bien. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire.
Ah non.
Si.
Il n'y aura pas de coup de pouce au SMIC.
Si. Mais qu'est-ce qui compte ? C'est la feuille de paye. Les salariés payés au SMIC vont avoir l'équivalent d'un 13e mois de SMIC. Jamais il n'y a eu une augmentation du salaire net du SMIC, c'est-à-dire l'argent que touchent effectivement les Français depuis 1968.
Gilles Legendre, s'il n'y a pas de mesures immédiates, parce que vous parlez d'un dialogue sous 3 mois, s'il n'y a pas de mesures immédiates, de signal fort, comme on le disait, on va dire que vous laissez pourrir la situation.
Jamais de la vie. Je vous indique exactement le contraire. La concertation, c'est elle qui permettra de procéder aux ajustements, peut-être ajustements sur les décisions que nous avons prises. Je prends un exemple. Pour accompagner la hausse du prix du carburant, nous avons mis en place une prime de conversion pour permettre aux personnes qui veulent changer de voiture pour avoir une voiture moins polluante et moins consommatrice de pétrole, et donc moins coûteuse, de pouvoir le faire. Cette prime a un succès inouï. Nous avions prévu d'en faire 500 000 sur l'année. Nous avons déjà dépassé les scores que nous avions prévus. Nous allons la porter à 1 million. Maintenant, nous savons peut-être que sur certaines populations, cette prime ne fonctionne pas, parce qu'il faut quand même encore débourser de l'argent pour pouvoir changer de voiture. Eh bien, nous allons regarder très précisément ce que nous pouvons faire pour combler cet angle mort.
J'entends vos certitudes, Gilles Legendre, et en même temps, certains de vos élus...
Il n'y a pas de certitude, il y a une conviction.
J'ai entendu hier certains de vos élus se prononcer pour un moratoire sur les hausses de taxes prévues au 1er janvier. Sylvain Maillard, votre collègue, notamment député de Paris, dit il faut mettre ça entre parenthèses.
Écoutez, il est normal que dans un groupe parlementaire, avec des députés qui sont constamment sur le terrain, en contact avec les Gilets jaunes, dans un dialogue intense avec les Français, les idées circulent. À un moment, il va falloir trancher. C'est le gouvernement qui tranchera et la majorité sera unie derrière lui.
Donc, vous pensez que la ligne de fermeté est encore tenable ?
Ça n'est pas la ligne de fermeté,
Patrick Cohen. Fermeté, ça veut dire qu'on ne renonce pas aux mesures qu'on a déjà décidées.
C'est la ligne des solutions concrètes. Vous savez, qu'est-ce qui explique la cause ? Qu'est-ce qui explique la colère des Gilets jaunes ? Un fait notoire, c'est qu'à chaque fois qu'un gouvernement a rencontré une difficulté au cours des dernières décennies, il a calé, il a lâché. Et nous sommes allés de défaite en défaite, qui fait que sur tous les plans, les services publics, c'est-à-dire ce que payent nos impôts, ont baissé en qualité et se sont accrus en inégalité. C'est exactement ça que dénoncent les Gilets jaunes et c'est exactement ça ce que notre politique entend
réparer. Vous êtes certain, Gilles Legendre, qu'il n'y aura pas de recul, qu'il n'y aura aucun recul.
Mais
les réformes vont continuer.
Patrick Cohen, posez la question dans ces termes-là, excusez-moi, avec tous les respects et l'admiration que j'ai pour vous, c'est déjà rentré dans un schéma stérile. Le sujet n'est pas de lâcher ou de ne pas lâcher, le sujet est d'apporter les solutions concrètes aux problèmes posés et de le faire. Et là, je reconnais un virage nécessaire et de le faire d'une manière différente de celle qui a prévalu pour tous les gouvernements et un peu pour le nôtre depuis 18 mois. C'est-à-dire ne pas se contenter de trouver des solutions pour les Français comme nous le faisons, comme jamais aucun gouvernement l'a fait depuis des années, mais trouver des solutions avec les Français. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus diriger un pays, une entreprise, une association, une administration comme une armée. Nous devons entraîner les Français, leur faire comprendre où nous voulons les emmener et pourquoi nous voulons le faire.
Y compris avec la réforme des retraites qui sera mise en chantier dans les prochains mois comme prévu.
La réforme des retraites est le cas type, l'illustration de cette autre manière de gouverner. Cela fait 18 mois que nous sommes engagés dans une concertation. Je vous ferai remarquer qu'elle se passe très bien avec les partenaires sociaux, avec les partenaires locaux, les représentants des Français.
Merci Gilles Legendre, député de Paris et président du groupe LREM à l'Assemblée nationale.
Europe 1.
Dans un instant, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel qui continue de se battre pour le climat et l'application des accords de Paris. Quel est l'enjeu de la COP24 qui s'ouvre dans quelques heures à Katowice en Pologne? Est-il indispensable d'augmenter le prix de l'essence? On vient d'en parler. Les réponses de Laurent Fabius dans un entretien enregistré avant les violences d'hier à Paris. A tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen avec Cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour Laurent Fabius.
Bonjour.
C'est d'abord l'ancien président de la COP21 que je voudrais interroger, celui qui bataille en faveur d'un pacte mondial pour l'environnement. Vous présidez le groupe d'experts pour ce pacte. Lundi s'ouvre à Katowice en Pologne la COP24 qui doit préciser les règles de l'accord de Paris conclu sous votre égide en 2015. Or, 3 ans après, rien ne va, la planète n'a jamais été aussi chaude, les émissions de CO2 aussi élevées, le président américain, vous le savez, promeut l'utilisation du charbon, le nouveau pouvoir brésilien pourrait à son tour quitter l'accord de Paris, et en France, la transition énergétique se trouve contestée, parfois dans son principe, au moins dans ses modalités. Je parle bien sûr du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui reste, au-delà de l'accord, qu'est-ce qui reste de l'esprit de Paris, Laurent Fabius?
L'esprit de Paris, moi je l'ai défini de la manière suivante. C'était d'abord d'obtenir un engagement, et c'est vrai que tous les pays du monde ont signé à Paris un engagement à faire toute une série de choses pour lutter contre le dérèglement climatique. Bon, ça reste l'engagement. Ce qui s'est passé, et c'est vrai que c'est pas seulement un paradoxe, mais un scandale, c'est qu'au moment même où on signait cela, au moment même où il fallait donc prendre des décisions, un certain nombre de pays ont ralenti l'allure. Donc vous avez un fossé qui se creuse, vous avez fait allusion à toute une série de rapports qui sortent, mais on n'a pas besoin même de ces rapports pour voir que la catastrophe est là, et pas dans 50 ans, aujourd'hui. Et donc il faut, et ça c'est l'objet de Katowice, appliquer l'accord de Paris. Alors l'objet de la conférence de Katowice, c'est une espèce de ce qu'on appelle un rulebook, c'est-à-dire un point d'application des détails de l'accord de Paris, plus un renouvellement des engagements, plus des discussions sur le financement.
Oui. Mais est-ce qu'il suffit de faire confiance à ces pays, ou est-ce que pour y arriver,
il
faudrait
vérifier.
Un gendarme mondial du climat?
Alors, il faut vérifier. L'objet de Katowice, c'est de descendre dans les détails et de dire, bon, c'est très bien d'avoir pris des engagements, mais quelle forme précise ces engagements? Comment on fait le reporting? Quelle est la transparence? Bon, il faut la méthode. Gendarme mondial, vous ne pouvez pas avoir un organisme qui dise, le président de tel ou tel pays doit être poursuivi dans la justice et mis en prison parce que le pays en cause, etc. Ça ne correspond pas à la réalité mondiale. C'est pour ça que, à l'initiative de la France, mais maintenant c'est un projet mondial, discuté aux Nations Unies, nous avons mis sur pied, et j'ai présidé le groupe des experts internationaux qui s'en est occupé, un pacte mondial de l'environnement qui reprend les principes à appliquer, avec une traduction juridique cette fois-là, un traité international, les principes à appliquer pour les citoyens, pour les entreprises, pour les États. Et donc, si ce traité international voit le jour, et nous y travaillons, ça voudra dire qu'il y aura juridiquement, avec ce qu'on appelle une force légale, un certain nombre de principes à la fois ambitieux et pragmatique dans le domaine de l'environnement, pas seulement du climat.
Qui pourrait être invoqué devant les tribunaux, mais sans le soutien des États-Unis et de la Russie, que vaudrait un tel traité?
Il vaudra beaucoup parce que les États-Unis, c'est évidemment très important, mais les États-Unis, c'est 15% des émissions de CO2, c'est pas 100%.
Alors parlons de la France, Laurent Fabius, dans la mesure où vous pouvez le faire. D'abord, est-ce que vous pensez que d'une façon générale, les carburants, les énergies carbone doivent être rendus plus cher pour nous encourager à les économiser ou à nous en dispenser?
Tous les spécialistes considèrent que si on veut aller vers un monde décarboné, ou en tout cas bas carbone, ce qui est une nécessité, puisque le dérèglement climatique vient essentiellement du CO2. Le CO2, le grand producteur de CO2, c'est les énergies fossiles. Bon. Donc il faut aller vers une diminution de l'utilisation de ces énergies fossiles. Ça, c'est clair. Il n'y a que M. Trump et quelques autres qui pensent autre chose. Pour essayer d'aller dans cette direction, le moyen le plus efficace, disent tous les spécialistes, c'est la tarification du carbone. Bon. C'est-à-dire que lorsqu'on émet du carbone, il faut que ça coûte. En revanche, lorsqu'on utilise des énergies renouvelables, il faut que ça coûte moins. Voilà. Le problème, c'est la transition. Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Je reprenais le texte de l'accord de Paris. Dans son préambule, il est dit qu'il faut aller vers une transition juste. Et ce concept de transition juste, je pense qu'il va être au centre d'énormément de débats et d'objectifs dans les mois et les semaines et les années qui viennent. Il va y avoir des destructions d'emplois, parce qu'il y a toute une série d'emplois qui sont liés aux énergies fossiles. Il faut accompagner la transition et créer de nouveaux emplois. Et c'est dit expressément dans le préambule de l'accord de Paris. Mais il y a une deuxième évocation qui est faite dans ce préambule, c'est qu'il y a des contre-mesures qui sont prises pour lutter contre le dérèglement climatique, et ces contre-mesures elles-mêmes posent des problèmes de justice. Là, on se rapproche de la situation française. Mmh. Je ne vais pas prononcer évidemment sur la politique française, ce n'est plus du tout mon rôle, mais je mets en avant cette nécessité de pratiquer une transition juste, à la fois pour les problèmes d'emploi et pour les problèmes sociaux.
Ça veut dire qu'il faut la rendre socialement acceptable.
Oui, parce que sinon...
Comment ?
Je n'entre pas là-dedans. Ça dépend de chaque pays. Mais vous citiez tout à l'heure la Pologne. Mmh. La Pologne est en train de fermer un certain nombre de mines de charbon, même si elle en ouvre peut-être d'autres. Évidemment, il y a toute une série de travailleurs qui sont mis en difficulté à cause de ça. Ça ressort de chaque pays.
Est-ce qu'il faut faire des taxes sur les carburants et du renchérissement de ces taxes, l'un des emblèmes du combat environnemental, parce que c'est ce qui est en train de se passer en France?
Là, j'ai répondu jusqu'où je pouvais répondre. Oui. Je ne peux pas, évidemment, me mêler de politique intérieure.
Alors, ces questions-là posent aussi un problème de plus général de philosophie politique. Ce que l'on voit abîmé aujourd'hui dans l'opinion, c'est comme on voudra, ou bien le consentement à l'impôt, ou disons la tolérance à un très haut niveau de taxe, qui est le cas de la situation française. C'est un sujet sur lequel vous êtes de longue date. Vous avez alerté Laurent Fabius. Qu'est-ce que vous inspire la situation
oui,
actuelle ?
Il y a une situation française qui est spécifique. C'est que, comme vous le dites, le niveau de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires est très élevé. En même temps, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière ces prélèvements obligatoires. Ce sont les prélèvements sociaux, notamment, qui sont très élevés. Mais il y a aussi des prestations. Bon, c'est le fait que, quand vous allez à l'hôpital, c'est gratuit, c'est toute une série d'allocations pour le chômage, etc. Mais c'est vrai, on le voit en tant que citoyen, que maintenant, il y a un sentiment qu'il ne faut pas aboutir à des situations excessives. C'est toujours cette question de la transition juste. Quand il y a des gens qui souffrent et qui sont très nombreux, on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Mais là, je ne veux pas aller plus loin, sinon je sortirai de mon impartialité.
Merci Laurent Fabius d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1.
Laurent Fabius, dans un entretien enregistré vendredi avant son départ pour la Pologne où se tient la COP24. Le prochain invité d'actualité, ce sera à 10h, le grand rendez-vous avec le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger. On va faire d'ici là une pause cinéma pour vous recommander un film bouleversant sur un parcours d'adoption pupille. Film Europe 1, sa tête d'affiche, Élodie Boucher et sa réalisatrice Jeanne Herry seront avec nous dans un instant.
Europe 1. C'est arrivé demain, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Voici à présent un film qui ne ressemble à aucun autre, qui raconte simplement une naissance et une adoption, qui suit les premières semaines d'un enfant, depuis l'accouchement sous X de sa mère biologique jusqu'à son accueil par sa mère adoptive, en s'arrêtant sur toutes les bonnes fées penchées sur son berceau, sage-femme, aide sociale à l'enfance, famille d'accueil, qui vont déterminer son destin. Le film s'appelle Pupille, car c'est le statut des enfants abandonnés, pupille de l'État. Il est d'une humanité et d'une simplicité bouleversante. La mère adoptive, c'est vous qui l'incarnez. Bonjour Élodie Boucher.
Bonjour.
Et ce film, c'est le vôtre. Bonjour Jeanne Herry.
Bonjour.
Votre deuxième long métrage après Elle l'adore. Comment est né ce projet ?
Il est né d'un message sur ma messagerie d'une proche sur le parcours de l'adoption qui depuis plusieurs années, qui m'annonçait que les services l'avaient appelée pour lui dire qu'ils avaient un bébé pour elle. Et voilà, et ce message était bouleversant, il était plein, il était d'une vibration émotionnelle exceptionnelle. Ça m'a percutée, voilà, à tous endroits, au cœur, à la tête, et ça m'a... J'ai eu envie tout de suite de savoir d'où venait ce bébé. Et j'ai voulu comprendre pourquoi on mettait quelqu'un dans l'état dans lequel était mon ami au téléphone, c'est-à-dire ce mélange absolument contrasté, contradictoire parfois d'émotions, de l'euphorie, de la panique, de la joie. Il y avait une brutalité, il y avait de la plénitude, il y avait tout. Et j'ai voulu savoir comment on en arrivait là, en fait.
Sujet, je crois, qui n'avait jamais été traité par le cinéma français. On se souvient de Oli Lola de Bertrand Tavernier, mais qui racontait, enfin c'était avec Isabelle Carré et Jacques Gamblin, qui racontait un processus d'adoption, mais à l'étranger, au Cambodge. Ouais. Là, c'est en France. Tout est vrai, les processus d'adoption ont lieu exactement comme dans le film, il y a une précision documentaire.
Oui, je me suis beaucoup renseignée pour étudier les protocoles, en fait. Les protocoles qui encadrent à la fois l'accouchement sous X et les candidats qui souhaitent adopter, les candidats à l'adoption.
Quel est votre regard d'actrice et de mère de famille sur le script, sur le rôle que vous a confié Jeanne Herry et sur ce film?
C'est vrai que lorsque j'ai reçu le scénario, je l'ai avalé. J'ai été tout à fait projetée, en fait, dans ce film, dans cette histoire, dans ce parcours, dans ces parcours. Et en tout cas, on ne s'était pas encore rencontrés avec Jeanne, mais je savais que moi, je pouvais, en tout cas, je voulais participer à ce film et accompagner cette histoire, ce propos, ces êtres humains, en fait.
Il faut dire aussi qu'il y a des leçons dans ce film, je crois, qui valent pour tous les parents, pas seulement pour les adoptants. Il y a d'abord l'idée que le bébé est une personne, qu'il faut lui parler, lui dire des choses. C'est très important dans le film.
Oui, il y a tout un ressort quasiment de suspense, en fait, qui tourne autour de la parole et de l'absence de la parole et de ce que ça peut provoquer.
Et puis, autre idée force, c'est dit plusieurs fois par les travailleurs de l'aide sociale à l'enfance, l'adoption n'est pas là pour apaiser des parents en souffrance, mais elle vise à trouver les meilleurs parents à un enfant qui n'en a pas. Ça, c'est essentiel.
Ouais, c'est-à-dire que quand moi j'ai compris enfin, en fait, que ce soit ceux qui travaillent pour le bébé, que ce soit ceux qui encadrent les candidats à l'adoption, tout le monde travaille et est rattaché à l'aide sociale à l'enfance. Donc à partir du moment où on comprend que ces gens travaillent pour les enfants, dans l'intérêt de l'enfant, alors là, on comprend très bien qu'il y a un énorme malentendu et que moi aussi, je regardais toujours la situation du mauvais côté, en fait.
Alors on va écouter un extrait du film qui rend compte du combat mené par... les candidats à l'adoption, vous êtes Élodie Boucher, Madame Langlois,
Alice.
Mais oui, bien sûr, parce que chacun, les travailleurs sociaux vous appellent systématiquement Madame Langlois. Vous avez déjà fait une première demande, mais vous venez de vous séparer, vous venez de divorcer. Vous êtes face à une travailleuse sociale qui est incarnée par Olivia Côte. Et voici cet extrait.
Je suis toujours salariée dans la boîte de Stéphane et il me laisse du temps pour trouver un autre truc, donc ça va. J'aimerais faire une demande d'agrément pour un enfant à particularité.
On va attendre un peu avant de lancer votre nouvelle demande d'agrément.
Je veux pas attendre, je suis prête, moi. En vrai, c'est exactement comme avant, sauf que je suis toute seule, c'est tout.
Donc c'est plus comme avant.
Mais j'ai pas le temps d'attendre, déjà que c'est reparti pour 9 mois et
vous
tout.
Vous avez pas le choix, Madame Langlois, un divorce, c'est un carnage, ça laisse des traces partout. Il faut prendre le temps de vous remettre et de vous projeter en mère seule.
Mais je l'ai déjà fait, ça.
Alice, il faut se relancer dans tout ça, dans une nouvelle dynamique. Vous allez y arriver. Je vous fais confiance.
Olivia Côte, Élodie Boucher, beaucoup de choses dans cet extrait, évidemment. À la fois la force, la détermination de votre personnage à réussir, à parvenir à adopter un enfant, sa faiblesse, sa fragilité qui est perçue, et puis l'attitude... de la travailleuse sociale qui est en face de vous, mais qui a une attitude qui peut paraître dure, rigide, mais qui, dont on voit dans le film que vous avez écrit, Jeanne Herry.
C'est son métier d'accompagner. Elle a bien sûr raison. Et c'est vrai que c'est un moment, vous passez un extrait où il fallait raconter qu'est-ce que c'est ce parcours, qu'est-ce qui est dur. C'est le temps long, c'est l'alternance des moments d'abattement et des moments d'espoir, c'est toujours tenir malgré les moments où on se dit ça n'arrivera pas, c'est fini, c'est mort, j'y arriverai pas. Et en même temps, nous, eux, ce qu'ils veulent tester, et les gens de la société, ils ont bien raison, c'est le désir. Il faut être encore hyper frais, hyper désirant pour accueillir un enfant. Et donc ça, c'est vrai que c'était le moment déterminé dans le parcours du personnage d'Élodie, du découragement.
Découragement qui rend d'autant plus beau et plus fort, évidemment, l'épilogue du film et c'est... J'allais dire ces retrouvailles, mais non, c'est cette découverte mutuelle.
Cette rencontre.
Cette rencontre, alors, cette rencontre, oui, c'est dit comme ça, cette rencontre d'un petit bébé de quelques semaines, de 2 mois et d'une mère adoptive, Élodie Boucher. Ce sont vraiment des scènes absolument
oui,
magnifiques.
Oui, tout tend vers cette lumière-là dans le film, en fait. Moi, en tout cas, j'ai travaillé essentiellement là-dessus, même dans les moments de découragement. J'ai essayé d'avoir toujours un espèce de soleil intérieur, un peu voilé parfois, mais qui tend vers ce moment-là, vers le moment de la rencontre.
Alors, le film s'appelle Pupille, je le rappelle, c'est une réussite extraordinaire. Les acteurs sont magnifiques, Gilles Lelouch, Sandrine Kiberlin, Olivia Côte, on vient de l'entendre, Clotilde Mollet. Et pourtant, dans votre script, Jeannery, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas énormément de rebondissements, il n'y a pas beaucoup de romanesque, il n'y a presque pas de conflit, mais il y a énormément d'amour et d'humanité. Est-ce que ça a été difficile de monter le projet et de convaincre qu'on pouvait faire un aussi bon film avec des bons sentiments?
Écoutez, non, pour vous dire la vérité, non, pas du tout. Il se trouve que j'ai eu la chance que mon premier long métrage, qui pour le coup a été vraiment très compliqué à monter, me positionne, on va dire, favorablement dans le cinéma, ce qui fait qu'on a accueilli avec bienveillance ce scénario et qu'il a impacté, je crois, pas mal les gens qui l'ont lu. Non, pas de personnage antagoniste. Moi, j'en avais pas besoin, j'en avais pas envie, j'en avais pas besoin. Parce qu'en fait, l'antagonisme dans ce film, c'est l'adversité. Et il y en a partout de l'adversité. Et moi, ce que j'ai vu dans ces protocoles français, dans les lois françaises, je les ai trouvés éblouissants. Et je pense que donc, comme c'est rare, c'est précieux et qu'il faut y faire un peu attention.
Parmi les très bons acteurs du film, j'ai oublié de citer Miu Miu.
Oui.
Vous n'allez pas.
Mais oui, vous avez oublié. Mon cœur saignait, absolument. Bien sûr, il faut la citer.
Votre mère. Merci, Jeannery. Courez voir Pupille mercredi prochain au cinéma. Merci, Jeannery. Merci beaucoup, Élodie Boucher,
merci
d'être venue nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est la fin de C'est arrivé demain. Et c'est arrivé cette semaine aussi, c'était hier. Émission préparée par Marina Pruzès et réalisée par Julien Blanc. Dans 5 minutes, ce sera le grand rendez-vous. Retour à l'actualité la plus chaude. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Invité.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, après les scènes de chaos qu'on a pu voir hier à Paris, on fait quoi? Comment on renoue le dialogue? Avec qui parle-t-on? Et les syndicats, largement débordés évidemment par ce mouvement, peuvent-ils aider à la reprise de ce dialogue?
A tout à l'heure avec Laurent Berger. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.